rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence pour votre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour Monseigneur Ginoux.
Bonjour Thibaut et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Donc pendant tout ce mois de septembre, nous sommes avec vous, Monseigneur Ginoux, pour évoquer la question du travail du dimanche. En effet, il y a une tribune qui a été publiée au mois d'août dernier par une vingtaine de députés de La République En Marche et qui souhaitent étendre la notion de travail du dimanche. Et nous explorons cette notion ensemble. La semaine dernière, nous sommes beaucoup attachés aux racines de ce travail du dimanche, dans les lois, dans les textes sacrés. Faisons un petit détour par l'histoire cette fois-ci, avec, je vous lance trois dates. 321, l'empereur Constantin qui pose le jour de repos légal dans l'Empire romain. 1598, l'édit de Nantes, Henri IV, qui vient réaffirmer ce principe. Et 1906, le repos dominical est établi de manière définitive. Cette loi de 1906 qui reste en vigueur, elle est fondée autour de deux valeurs, le repos et la famille. Et je lis quelque part qu'elle constitue une restriction du principe de liberté de commerce et de l'industrie au profit, selon le Conseil constitutionnel, de la santé et du bien-être public. Donc c'est fort, parce que c'est vrai qu'il y a eu des amendements, il y a eu des révisions, etc. Mais cette loi reste le fond applicable aujourd'hui.
Cette loi de 1906 est une loi républicaine.
Oui.
Elle vient après la loi de séparation de l'Église et de l'État. Elle est donc bien inspirée par une pensée qu'on qualifierait de laïque, au sens d'opposé à la religion dominante de cette époque, la religion catholique. Et donc, elle mérite qu'on s'y arrête, parce que quelques années plus tôt, au XIXe siècle, la République aurait voulu abolir le repos dominical pour montrer que la religion n'intervient pas dans la vie de la société. Et finalement, par d'autres moyens, sous un autre regard, la loi républicaine va en quelque sorte, on dirait aujourd'hui dans notre nouveau vocabulaire, sanctuariser le dimanche, en faire un jour où l'on ne travaille pas. S'appuyant sur deux points que vous avez évoqués, la nécessité de se reposer et la vie de famille, ce qui montre qu'au début du XXe siècle, ces réalités étaient le ciment de la société et donc de ce repos dominical. On trouvait légitime qu'il y ait un jour de repos par semaine, c'est plus que normal, et en même temps une vie de famille. Aujourd'hui, ces deux points ne tiennent pas beaucoup parce que dans le développement de l'individualisme et du relativisme de beaucoup de choses, certains, et même en grand nombre, plaident pour le choix du jour de repos, le choix des arrêts de travail, des récupérations. Alors, on est aussi dans ce domaine-là victime d'un éclatement dans la société. Les uns se reposeraient le mercredi et le jeudi, les autres travailleraient le dimanche jusqu'au jeudi, puis se reposeraient ensuite, et ainsi de suite. Avec, y compris, le travail nocturne, qui avait été interdit aux enfants jeunes et aux femmes, qui, aujourd'hui, revient subrepticement en ce qui concerne les femmes, sous prétexte d'égalité. Donc, il y a, dans cette histoire du dimanche, la prise en compte d'une évolution très forte en arrivant aujourd'hui. Et la volonté de n'avoir aucune référence religieuse fait partie de la disparition volontaire du dimanche chez certains hommes politiques, chez certains entrepreneurs, des managers, la pensée aussi, avec la pensée qu'il y a là un temps de travail à exploiter pour produire toujours davantage. Il y a quelque chose régime capitaliste qui apparaît dans le travail du dimanche. Et il est dommage qu'aujourd'hui, les syndicats de salariés ne se révoltent pas plus contre le travail du dimanche, ne sont pas fidèles à leurs ancêtres qui, en 1906, faisaient voter la loi dont nous parlons.
Mais si on est factuel tout de même, Mgr Ginoux, aujourd'hui, travailler le week-end, c'est loin d'être exceptionnel. Il y a 4,2 millions de salariés qui ont travaillé au moins un dimanche par mois en 2015, si on en croit le ministère du Travail, près d'un salarié sur cinq. Quant aux indépendants, ma foi, c'est aussi pour vivre qu'ils s'obligent parfois à travailler 6 jours ou 7 jours sur 7. Ils sont plus d'un million à travailler au moins un dimanche par mois, soit 37% de cette catégorie. En fait, déjà aujourd'hui, ce travail le dimanche est presque banal.
Il est vrai qu'il se banalise de plus en plus. Il faut voir si ce n'est pas aussi sous la contrainte. Mais il y a toujours eu du travail du dimanche. Soyons sérieux, les boulangers, les métiers de bouche, disait-on, les métiers du voyage, du transport.
Le tourisme en général,
les hôtels, les restaurants, tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont rémunérés, au service des autres. Les hôpitaux, les cliniques, il y a donc les médecins, il y a donc un travail du dimanche pour beaucoup de catégories professionnelles. Mais ce qui pose question aujourd'hui, c'est l'ajout de plus en plus fort aux dérogations existantes. Il y a les dérogations naturelles, celles que je viens de citer, qui font partie du bon sens de la vie. Mais il y a de plus en plus de dérogations, en particulier dans l'ouverture des grandes surfaces. Et c'est quand même une question fondamentale. La politique, le gouvernement, doit-il inciter les grandes surfaces à ouvrir le dimanche ?
La dérive, elle est là, précisément.
La dérive est précisément là. Mmh. Et on sait le pouvoir qu'ont sur les salariés, sur leurs salariés, les grandes surfaces. Elles entraînent donc une concurrence qui fait que certains commerces sont obligés d'ouvrir le dimanche parce que, par exemple, ils sont dans les galeries marchandes de ces grandes surfaces ou parce qu'ils sont dans des quartiers de ville qui sont marqués par des ouvertures dominicales de plus en plus fréquentes. Ce qui fait que le commerçant est obligé, se sent obligé d'ouvrir. Il doit, lui, payer davantage ses employés. Il n'est pas nécessaire que les employés s'y retrouvent dans les récupérations de repos. Quant aux grandes surfaces, elles sont malheureusement souvent, elles ont souvent pour salariés des gens en difficulté financière qui arrivent peu à s'en sortir et qui acceptent toutes les conditions de travail. De plus, il n'est pas heureux de voir un dimanche d'hiver des grandes surfaces envahies de monde, enfants en tête, s'écraser au lieu d'aller prendre l'air, d'avoir des activités sportives ou même de se réunir chez eux.
Mais c'est vrai qu'un des enjeux de ce débat, c'est effectivement une lutte contre une tendance à la surconsommation. Parce que cette dérive qui vient du tourisme ou des services publics vers les grandes surfaces et donc les achats faits de la sortie du dimanche, la sortie pour acheter, et donc de nous pousser éternellement à la consommation, est-ce que là aussi il y a un risque ?
Il y a un risque certain de cet appel à la consommation, c'est-à-dire plus il y a de possibilités d'acheter, plus on pense que le consommateur va acheter. Et on sollicite ainsi, à travers la publicité, à travers ces ouvertures de grands magasins, on sollicite aussi l'argent de ceux qui peuvent acheter. Et on crée également la frustration. Parce que pour un certain nombre de ceux qui viennent dans ces grandes surfaces, ils ne peuvent pas acheter ce qui est proposé. Donc ils rentrent chez eux le soir, fatigués, énervés, avec ce sentiment de frustration qu'ils ne pourront jamais s'acheter le Thermomix à 1000 euros que madame a vu et dont elle rêve, ou tel ordinateur, ou encore le home cinéma dont les enfants ont dit « Papa, on a besoin de ça ». La conséquence est cette frustration familiale. Ou, si l'on a acheté quand même certaines choses, le risque d'avoir des insomnies parce qu'on se demande comment ce sera payé. Le crédit jouant à fond dans ces cas-là. Il y a donc une activité dominicale, si je peux passer, parler d'activité dominicale dans quelque chose qui est terriblement passif, qui ne fait de bien à personne, sinon aux grands patrons, aux grandes chaînes de grands magasins, de ces super magasins, qui évidemment, plus il y a de clients, plus il y a de passages, plus sont connus et plus peuvent vendre leurs produits, car au milieu de tout ce monde, il y aura nécessairement des acquéreurs.
C'est intéressant ce que vous venez de dire, Monseigneur Genoux, parce que ce sont précisément des arguments qui ont été repris par les élus mélenchonistes et communistes en réaction à la tribune déposée par les députés donc de La République En Marche. Et donc, vendredi prochain, nous allons regarder un petit peu dans le détail ces réactions, de quoi elles sont faites et en quoi l'Église, ici, rejoint effectivement, sur ces points-là, les syndicats et les élus de gauche. Merci, Monseigneur Genoux, et à la semaine prochaine.
Et merci à vous.
Rencontre avec nos évêques.